tambour. Dans quelques minutes, le Sénégal qui rebaptise des rues portant des noms français. On va en parler avec l'invité de Christophe Boisbouvier, Michel Benarous, géographe et chercheur associé aux universités de Genève et de Saint-Louis du Sénégal. Mais d'abord, les sports. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Clotilde, bonjour à tous.
Du football, rien que du football, en programme avec notamment la Ligue des Champions en Europe d'abord avec les quarts de finale aller.
Et l'énorme option prise par Arsenal face au Real hier, des canonniers qui n'ont jamais aussi bien porté leur surnom font éclater le taulier. Victoire nette 3-0 grâce notamment à deux... coup de canon sur coup franc de Declan Rice, le tenant au bord de l'élimination avant le retour chez lui à Madrid dans 8 jours. Score final, on l'a dit, 3-0. Bien parti aussi l'Inter Milan qui est allé gagner à Munich face au Bayern 2-1. La suite ce soir, Clotilde, avec Barça Dortmund et PSG Aston Villa. Débrief dans Radio Foot en direct à 21h10 temps universel.
De la Ligue des Champions aussi en Afrique, quart de finale retour cette fois.
Et déjà 3 qualifiés pour le dernier carré, les Mamelodi Sundowns, Sud-Africain, 0-0 hier face à l'Espérance Tunis. Le double tenant Al Ahly du Caire passe aussi aux dépens des Soudanais d'Al Hilal Omdurman. Victoire 1-0 en Mauritanie qui accueille le club de Florent Ibengue. Ça passe aussi pour d'autres Égyptiens, ceux de Pyramids FC malgré une défaite 2-0 chez les Phares de Rabat. Ce soir, Orlando Pirates, ce sont d'autres Sud-Africains, accueillent le Mouloudia d'Alger avec un but d'avance. Car retour également en Coupe de la Confédération. Aujourd'hui, Zamalek du Caire face à Stellenbosch, les Sud-Africains, 0-0 à l'aller. Simba, les Tanzaniens, face à Al Masry, les Égyptiens, qui s'étaient imposés 2-0 au match aller chez eux. Et enfin, le derby algérien, on va dire ça comme ça, l'USM Alger face à Constantine à l'aller, 1-1. Puis du côté du Maroc, la renaissance sportive de Berkane reçoit la SEC Mimosa avec un but d'avance inscrit à Abidjan la semaine passée. Et la préparation de ce match retour a mal commencé, très mal commencé, selon Julien Chevalier, le coach des Ivoiriens, agacé, c'est le moins que l'on puisse dire, par le mauvais accueil des Marocains.
Quand je vois comment on accueille les équipes adverses, les installations qui sont à disposition, alors encore plus depuis la CAN, et que je vois le terrain sur lequel on nous a fait nous entraîner hier, qu'on nous complique le déplacement pour venir ici, c'est un petit peu décevant, parce qu'on sait que quand on est venu il y a 3 ans, je crois, ça s'est joué à pas grand-chose et c'était même discutable. Donc il faudra disputer ce match pour éviter d'avoir ce genre de situation et ce genre de regrets. Quand je vois comment on organise les choses depuis notre arrivée, peut-être qu'on fait peur.
Berkane, Masek, Mimosa, coup d'envoi 19h TU.
Et puis un dernier mot de foot féminin, cette fois au Maroc, toujours Olivier.
Avec le succès en match amical des Camerounaises face aux Marocaines 1-0 hier soir à Casablanca, sous les yeux de François Humfer Kataji.
Elles n'avaient pas joué en match officiel depuis plus d'un an. Leur dernière rencontre remonte à février 2024 face au Nigeria. Les Lions Indomptables n'étaient pas parvenues à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Sur la pelouse du stade Jego, c'est la capitaine Gabrielle Ongené, pilier historique de l'équipe, qui montre la voie. Lancée en profondeur, elle parvient à tromper la gardienne marocaine en 1 contre 1. Les jeunes joueuses camerounaises ont aussi répondu présentes, selon la gardienne Ange Baou.
Je pense que c'est le projet pour lequel la fédération travaille, le staff aussi. Les frais, la jeunesse pour mettre le tennis dans le jeu et... voilà, peut-être que l'avenir nous dira mieux.
Le score aurait pu être beaucoup plus sévère pour le Maroc. Les Camerounaises ont eu la maîtrise du ballon, 6 occasions franches, dont une barre transversale. Un petit manque de réalisme, note un supporter camerounais dans le public.
Malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment de buts, comme la physionomie de la rencontre pouvait nous le démontrer, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions, il y a eu beaucoup de situations en zone dangereuse. Mais malheureusement, les filles ont énormément pêché à la finition. C'est à ce niveau qu'il faudra corriger les choses.
Les 600 supporters marocains, eux, ont poussé jusqu'au coup de sifflet final. Insuffisant, 1-0 pour le Cameroun. François Humfer Kataji, Casablanca, RFI.
Et la CAN féminine au Maroc, c'est du 5 au 26 juillet.
Et c'était Olivier Pron pour les sports. Il est...
RFI, toute l'actualité.
Clotilde Dumay.
5h47 en temps universel. Nous sommes le mercredi 9 avril 2025. Dans l'actualité aujourd'hui, les marchés asiatiques qui replongent alors que les derniers droits de douane voulus par Donald Trump sont entrés en vigueur. Une 60aine de partenaires des États-Unis concernés et la Chine particulièrement visée. Plus 104% au total pour Pékin qui prévoit de répondre avec 34% de douane supplémentaire sur les produits américains. Pékin qui n'a en revanche pas encore réagi à l'annonce de Kiev. L'Ukraine annonce avoir capturé intégrer à l'Est deux ressortissants chinois qui combattaient au sein de l'armée russe. C'est une première. La Maison Blanche se dit troublée. Il n'y a pas de pénurie d'aide à Gaza. Voilà ce que répond Israël aux Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime qu'aucune aide n'est entrée depuis plus d'un mois et que l'enclave palestinienne est un champ de mort. Et puis au moins 98 victimes, plus de 150 blessés en République dominicaine. Bilan provisoire après l'effondrement du toit d'une discothèque à Saint-Domingue. Parmi les victimes, l'artiste qui se produisait sur scène, la star du merengue Ruby Pérez. Ne cherchez pas le boulevard du général de Gaulle à Dakar. Il s'appelle désormais boulevard Mamadou Dia. Au Sénégal, les autorités ont décidé de débaptiser certaines rues portant des noms français. Même chose au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Mais comme le sujet est sensible au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a confié la renomination de ces rues à un Conseil national de la mémoire et de la gestion du patrimoine historique. Michel Benarous est géographe et chercheur associé aux universités de Genève et de Saint-Louis du Sénégal. Et il est votre invité, Christophe Bois-Bouvier.
Michel Benarous, bonjour.
Bonjour.
Le boulevard Charles de Gaulle qui devient le boulevard Mamadou Dia, c'est tout un symbole, non ?
Ah, c'est un symbole et c'est une boucle qui se referme. Mamadou Dia, pour mémoire, c'était le président du Conseil à l'époque de l'indépendance du Sénégal, dans un pouvoir bicéphale avec Senghor. Et Mamadou Dia était déjà opposé à De Gaulle.
Au Niger, il y a quelques mois, le nouveau régime a rebaptisé le boulevard Charles de Gaulle boulevard Djibo Bakary, du nom du Mamadou Dia du Niger, celui qui avait appelé à voter non à Niamey en 58.
Oui, tout à fait. Donc tout cet effort-là, oui, est fait au Niger, comme d'ailleurs dans les autres États de l'AES, au Burkina et au Mali.
Est-ce que derrière tous ces changements de nom, au Sénégal et dans les autres pays du Sahel, on peut parler d'une réappropriation de leur histoire par les habitants?
Oui, certains vont même jusqu'à parler de décolonisation symbolique. Mais sur la réappropriation de l'histoire, c'est tout à fait vrai. D'autant plus que c'est l'histoire des sociétés colonisées qui avait été occultée par cette toponymie coloniale, par ces pratiques de nomination commémorative toujours à la gloire de l'entreprise coloniale française. Donc les histoires locales avaient disparu, étaient devenues invisibles. Effectivement, elles reviennent en avant. Maintenant, pour parler de décolonisation, c'est peut-être un petit peu plus compliqué dans la mesure où le principe même de nommer des rues est une importation totalement coloniale. Et le principe de nommer des rues avec des ambitions idéologiques, une toponymie commémorative, ça aussi c'est quelque chose, c'est une importation coloniale qui tranche totalement avec les pratiques, on va dire, anciennes, mais qui existent encore, de nommer des grottes, des arbres, même à Dakar.
En 2022, quand il était maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko a débaptisé 5 avenues qui portaient des noms français en disant « En France, vous ne verrez jamais une rue Hitler ». Que pensez-vous de cette comparaison ?
Je pense qu'elle appelle deux séries de remarques. La première, c'est qu'il utilise la toponymie comme un instrument de politique internationale. Ces renominations, elles ne s'adressent pas seulement aux Ziguinchorois, à ses administrés, elles s'adressent aussi au public international qui peut l'écouter et elles sont en particulier un outil dans ses relations avec la France. L'autre série de remarques, c'est le sort qui a été réservé à ces renominations. Au départ, à l'époque coloniale en tout cas, c'était très simple, les noms venaient d'en haut, c'était l'administration coloniale, le gouverneur et un conseil administratif qui donnaient les noms. Sous Senghor, c'était encore plus concentré, c'était par décret présidentiel que les noms changeaient. Progressivement, sous Abdou Diouf, puis surtout sous Ouad et ensuite Macky Sall, cette capacité de renommer a été dévolue aux collectivités locales. Donc, a priori, Ousmane Sonko était tout à fait fondé, quand il était maire de Ziguinchor, à proposer des changements de nom. Mais le gouverneur, à l'époque, n'avait a priori aucune capacité d'intervention dans ce dossier, a voulu contester les noms qui ont été invalidés par la Cour suprême. Donc ça montre que les collectivités locales n'ont jamais été jusqu'à présent épargnées par les sollicitations du pouvoir politique. Et ce qui change, et ce qui peut-être apaisera ou clarifiera les compétences de chacun, c'est le projet de rebaptisation qui a été annoncé par le président actuel en Conseil des ministres en décembre dernier et qui prévoit de créer une commission à laquelle participerait le Premier ministre, donc l'ancien maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, à laquelle participerait le ministre des collectivités locales, le ministre de la Culture et le secrétaire d'État chargé du patrimoine historique en collaboration avec les collectivités locales. Donc il y a un équilibrage à trouver et peut-être qui clarifiera les choses, qui apaisera peut-être ces questions de renomination.
À Saint-Louis du Sénégal, il y a une statue du général Faidherbe, le colonisateur français du Sénégal, qui a failli être déboulonné en 2020 lors de la tempête provoquée par l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Et puis finalement, elle a résisté résisté, elle est toujours là. Comment expliquez-vous ?
Oui, certains voudraient la conserver comme symbole historique, d'autres voudraient l'enlever. On se focalise parfois sur l'inscription qui est au bas de la statue, sur son socle, qui était évidemment intenable, qui disait « Au gouverneur Federme, le Sénégal reconnaissant ». Ça, je ne pense pas que ça va durer très longtemps. Mais on se retrouve à nouveau dans une symbolique où, pour faire place nette, si j'ose dire, les collectivités locales réemploient finalement des techniques qui sont d'importation coloniale. De la même manière que la domination des rues, les statues commémoratives, c'est pas quelque chose qui a une longue existence en Afrique. Changer une statue pour une autre, c'est réemployer des techniques, des pratiques qui finalement sont peut-être l'héritage colonial le plus profond.
Michel Benarous, merci.
Michel Benarous, géographe et chercheur associé aux universités de Genève et de Saint-Louis du Sénégal, interrogé par Christophe Boisbouvier. Les marchés mondiaux déstabilisés depuis plusieurs jours, on en parle encore largement ce matin, et les cours du brut ne sont pas épargnés. Ils ont dégringolé la semaine dernière. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
Certes, cette chute a marqué une pause hier, mais le pétrole reste ballotté à des niveaux très bas.
Des niveaux que l'on n'avait plus vus effectivement depuis 2021, avec des contrats sur le pétrole américain qui sont passés sous la barre des $60 le baril avant de remonter légèrement hier. Difficile d'anticiper ce qui se passera dans les prochains jours, mais le contexte actuel plaide pour des prix qui devraient rester bas, car leur chute est liée au climat économique actuel. Tant qu'il y a une incertitude sur l'ampleur des droits de douane américains qui seront appliqués, il y aura des représailles commerciales et une atmosphère qui pourrait diminuer les perspectives de demande en pétrole. La baisse des prix est par ailleurs aussi liée à la position de plusieurs pays de l'OPEP+, qui ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient mettre plus de pétrole sur le marché à partir du mois de mai.
Alors à qui peuvent profiter ces prix bas ?
Alors, si les prix se maintiennent ou baissent encore plus, les gagnants seront les consommateurs, mais aussi les entreprises qui achètent des produits pétroliers et bien sûr les États qui ne produisent pas de pétrole et qui doivent en importer, c'est-à-dire la majorité des pays. La France, par exemple, ne produit qu'1% du pétrole qu'elle consomme, ça veut dire qu'elle achète le reste au prix du marché. Elle pourrait donc, comme la Chine, voir sa facture pétrolière baisser. Il y a évidemment aussi des perdants, ce sont les compagnies pétrolières et les pays producteurs tels que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, le Canada ou encore la Russie.
On imagine que ça ne fait pas l'affaire de Moscou.
Oui, le Kremlin dit suivre de très près la chute des cours qui représente un risque pour son économie. La gouverneure de la Banque centrale assure que des mesures techniques sont à l'étude pour limiter les conséquences de la baisse, surtout si elle devait se poursuivre. Un tiers du budget russe pour 2025 repose sur les exportations de pétrole et de gaz, un budget calculé sur la base d'estimation des cours mondiaux qui pourrait avoir été trop optimiste. Ce qui inquiète aussi peut-être Moscou, c'est que le pétrole russe perd un peu de son intérêt avec la chute des cours, puisque son atout, c'était essentiellement son prix.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières.
RFI Matin.
C'est le second volet de notre série de reportages sur Taïwan. On vous parlait sur RFI la semaine dernière des infiltrations chinoises qui inquiètent l'île. Eh bien, on va désormais s'intéresser à la façon dont Taïwan s'organise face aux manœuvres militaires quasi quotidiennes de Pékin. La défense taïwanaise au défi de la pression chinoise, c'est un grand reportage de Nicolas Roca, extrait.
À Hsinchu, à quelques kilomètres du siège de TSMC, l'usine qui construit la plupart des semi-conducteurs de pointe, vital pour l'économie de la planète, se trouve une autre installation clé pour Taïwan. La base aérienne en charge de protéger la capitale Taipei. L'armée nous a ouvert ses portes. On nous emmène vers deux gigantesques pistes d'atterrissage bordées par des hangars numérotés recouverts d'herbe. Ils doivent protéger avions et pilotes en cas de bombardement. À l'intérieur, on trouve un Mirage 2000, ces avions de chasse français livrés en 1997. Ils sont en première ligne face à la pression chinoise. Les incursions des pilotes de l'armée populaire de libération dans la zone d'identification aérienne taïwanaise sont devenues quasi quotidiennes. Sur l'année 2021, on en comptait moins de 1000 contre plus de 3000 l'année dernière. Une augmentation qui se lit presque sur la carlingue usée des mirages et dans les gestes des hommes en train de charger l'avion de chasse.
Selon les types de vols qui seront prévus, nous allons charger différents types de munitions sur les avions. Parfois, comme aujourd'hui, ce seront des missiles d'entraînement. Et s'il y a une mission spécifique, nous allons accrocher de vraies munitions pour effectuer des missions de vol.
Reichauer, sergent-chef, répète avec ses hommes les gestes de préparation de l'avion qu'il veut le plus rapide possible. Une valse incessante d'avions de chasse ne cesse de décoller de la base. Le lieutenant-colonel Wu Mengzhi, pilote de chasse, nous montre les dernières vérifications à effectuer avant de grimper dans le cockpit.
No oil.
Pas de fuite d'huile, ça c'est bon, c'est ok. Là, c'est dans la bonne position. Le câble est connecté, on vérifie aussi les pneus, le système de freinage. On fait le contrôle de la pression tous les jours, et la pression est bonne.
C'est un grand reportage à écouter en intégralité aujourd'hui sur RFI à 19h40 en temps universel, 21h40 heure de Paris, ou bien en podcast sur le site internet ou l'application Pure Radio de RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité internationale.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, le gouvernement considère la grève dans les écoles du primaire et du secondaire comme illégale. La ministre de la fonction publique a menacé de licencier les enseignants grévistes. Que vous inspire ce bras de fer? Le droit de grève est-il menacé?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
À l'heure du Festival du Livre de Paris où le Maroc est l'invité d'honneur, je reçois l'écrivaine Rim Battal, poète, artiste, originaire de Casablanca. Elle publie un premier roman percutant qui met en scène l'émancipation d'une adolescente, un texte écrit au couteau et intitulé « Je me regarderai dans les yeux ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.